Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Lizzie présente. Il était deux fois. De Franck Tillier. Lu par Florian Wormser, avec la participation de Jean-Yves Berthelot. Ce que vous avez pris pour mes œuvres n'était que les déchets de moi-même, ces raclures de l'âme que l'homme normal n'accueille pas. Antonin Artaud. En toute chose, c'est la fin qui est essentielle. Aristote. Chapitre 1. L'hôtel de la falaise se nichait à l'endroit où la vallée de l'Arve se rétrécissait en un entonnoir de roches, à 3 kilomètres à l'est de Saga. À l'arrière de l'établissement de 46 chambres se dressait une paroi calcaire de 110 mètres qui, même en plein été, était aux trois quarts dans l'ombre, barrée d'une végétation chétive, occultée du soleil par les pointes grises et blanches des Alpes de Savoie. Un froid permanent y régnait, une coulée d'air glacé descendue des cimes enneigées, plus particulièrement en ce début d'avril 2008, où le printemps tardait à se manifester. On approchait les 23h30 quand le lieutenant Gabriel Moscato se présenta à l'accueil, l'un de ces lieux désuets où une moquette rêche, couleur châtaigne, tapissait les murs. Une collection de santons alignés sur des étagères lui donnait des airs de vieille auberge peu recommandable. Le gendarme connaissait le propriétaire du 2 étoiles. Romuald Tanchon avait proposé un job d'été à sa fille pendant 2 années consécutives et l'avait prise en stage. Les hommes se serrèrent la main. Le patron n'avait pas croisé Gabriel Moscato depuis un moment. Enfoncé dans sa parka bleu nuit au col relevé jusqu'aux oreilles, l'imposant lieutenant de gendarmerie Moscato, il mesurait pas loin d'1,90 m, semblait avoir pris 10 ans. Depuis combien de temps n'avait-il pas dormi? « Je suis désolé pour votre fille, » dit Romuald Tanchon. « J'espère de tout cœur que vous allez la retrouver. » Gabriel Moscato supportait ces phrases depuis 1 mois à Saga, un creuset de 13 000 habitants encastré entre les montagnes à coups de pieux par un fondateur quelconque. À tous les coins de rue, dans le moindre commerce où il fourrait les pieds, il saturait, mais il s'efforça de hocher la tête par politesse. Ses interlocuteurs voulaient juste se montrer compatissants après tout. Je parcours les établissements des environs de Saga qui hébergent des gens de passage. Je demande au responsable de me fournir la liste des clients présents aux alentours de la date de la disparition de ma fille. Si on refuse, ce que je peux comprendre, je convoque à la brigade. Ça engendre pas mal de démarches et ça complique les choses. Sinon, on gère sur place, tranquillement, et tout le monde y gagne. Romuald Tanchon sortit un classeur d'un tiroir situé derrière son comptoir. La confidentialité, on oublie. Si je peux aider. Il le plaqua devant Gabriel et tapota sur le clavier de son ordinateur. On est en 2008 et je n'ai toujours pas réussi à passer au 100% informatique. Je prends encore les réservations sur un bon vieux registre. Tout est noté là. Nom, prénom, date d'arrivée et de départ, moyen de règlement. Il décrocha l'une des rares clés encore suspendues au mur. La plupart des étrangers qui logeaient à Saga allaient rendre visite aux détenus du centre pénitentiaire situé en périphérie de la ville, où plus de 2000 âmes se consumaient dans des conditions déplorables. Le tourisme ici était inexistant. Une prison, un hôpital, un tribunal de grande instance et une gendarmerie remplaçaient les stations de ski. « Je serai à l'accueil jusqu'à minuit », ajouta Tanchon. « Vous pouvez occuper la 29 le temps nécessaire. Avant de partir, si je ne suis plus là, mettez la clé dans le panier et déposez le registre sur le comptoir. » « Merci, Romuald. » Les lèvres du propriétaire dessinèrent un trait inquiet sous sa grosse moustache noire où quelques poils gris commençaient à poindre. La quarantaine n'épargnait personne. « C'est le minimum que je puisse faire. Je l'aime bien, Julie. Ce genre de choses, ça ne devrait jamais arriver. Choper le salaud qui a fait ça. Il pointa le pouce vers l'arrière en direction d'une porte. Si vous avez besoin de moi, vous sonnez. Gabriel grimpa au deuxième étage. Ça sentait le bois verni, l'humidité aussi. Coucher dans un endroit pareil rendrait dépressif n'importe quel spécialiste de la psychologie positive. La fenêtre de la chambre 29 ouvrait sur la falaise, à une vingtaine de mètres seulement. Gabriel avait beau lever les yeux, il ne distinguait pas le moindre scintillement d'étoiles. Juste une impénétrable forteresse d'obscurité, derrière laquelle il entendait sa fille hurler. 32 jours d'enfer, et toujours rien. Julie n'était pas rentrée cet après-midi-là, un mois plus tôt. On avait découvert son VTT le 9 mars au matin, au lendemain de sa disparition, au bord de l'épaisse forêt de mélèzes qui s'élançait vers les hauteurs. Julie s'entraînait sur les pentes 3 fois par semaine pour préparer une course à Chamonix prévue en juillet. Selon les experts, la jeune fille de 17 ans avait brutalement freiné dans la descente à un endroit situé à une 50 mètres d'un parking de gravillon dans la côte entre Saga et Albion. Son vélo était appuyé contre un arbre, au bout des marques de freinage. Les bergers malinois de la brigade cynophile avaient perdu sa trace au niveau du parking. Elle, la simple fille d'un gendarme et d'une infirmière à domicile. Une gamine de la montagne, amoureuse des échecs, de la nature et du cinéma. Son appareil photo ou sa caméra numérique toujours au point. Des hélicoptères, des dizaines d'agents à pied avaient scruté la forêt, les flancs abrupts, les plateaux. Des plongeurs avaient fouillé le lit de la rivière, exploré tous les obstacles, souches, troncs d'arbres, ferrailles susceptibles de retenir un corps à la dérive. Outre les recherches de terrain, un groupe dédié de 6 gendarmes, Gabriel y compris, interrogeait les amis de Julie, ses camarades de terminale. On dressait des emplois du temps, on collectait les bandes de vidéosurveillance, on analysait des relevés de téléphone ligne après ligne. Le soir, sur son temps libre, quand les autres rejoignaient leur famille, Gabriel parcourait seul les maisons d'hôtes, les auberges, les hôtels. Il convoquait les gérants ou récupérait des listes entières d'identités qu'il recopiait dans son carnet. Le kidnappeur, si tant est qu'il y en eût un, était peut-être un gars du coin, un habitant de la forêt ou des alpages, mais il pouvait aussi être un voyageur opportuniste. Il ne fallait négliger aucune piste. La chambre 29 était spartiate. Une chaise sans table, un téléphone filaire, des rideaux ternes, une salle d'eau ridicule avec les toilettes attenantes à la douche. Pas de téléviseur, mais un mini-frigo généreusement fourni en alcool. Julie avait préparé les petits déjeuners dans cet établissement, nettoyé cette vieille moquette. Gabriel l'imagina en train d'entasser draps et serviettes. Pas le meilleur job du monde, mais elle avait pu gagner de l'argent de poche pour s'acheter sa caméra numérique. Laquelle avait d'ailleurs été versée comme pièce à conviction au dossier 2 semaines plus tôt. Gabriel avait été incapable de mettre la main sur la carte mémoire qui n'était plus dans l'appareil. Un détail sans doute, la carte ayant pu être perdue ou jetée car endommagée. Toujours est-il qu'elle manquait, ce qui méritait au moins d'être souligné. Dans les affaires de disparition, la moindre anomalie pouvait faire l'objet d'une interprétation. Chaque hypothèse en appelait une autre, consommant du temps, de l'argent et des moyens humains. Gabriel Moscato tira les rideaux, s'assit sur le lit, ôta ses rangers avec un soupir de soulagement. Son petit orteil droit saignait à force d'avoir arpenté Saga. Avec son portable, il envoya un message à sa femme pour la prévenir de son retour tardif. Elle ne le lirait sûrement pas, assommée par les antidépresseurs. Il lorgna le minibar avec envie, mais jugea bon de ne pas boire ce soir. Épuisé, il exerça une pression sur ses globes oculaires avec ses pouces, puis ouvrit le registre au 5 mars, 3 jours avant le drame. Sur ses 72 heures, il releva scrupuleusement chaque identité qu'il passerait plus tard au crible des fichiers et contacterait si nécessaire. Un travail de fourmi, ingrat, mais il fallait en passer par là. Je te retrouverai, Julie. Je te jure que je te retrouverai. Où était sa fille? Pourquoi ce coup de frein dans la pente, 50 mètres avant le parking? Avait-elle croisé une connaissance? Avait-on jeté son cadavre lesté au fond d'un lac? Ou la retenait-on dans une cave sordide à des centaines de kilomètres d'ici? Gabriel était informé des statistiques vertigineuses liées aux disparitions. Le temps meurtrier, briseur de volonté et tueur d'espoir, même des plus robustes. Au fil des mois, des années, sa fille se résumerait peut-être à un prénom, crié un jour au cœur des montagnes. Après avoir noirci trois pages, la fatigue le gagna. Il tenta de résister, en vain. Alors il s'allongea sur le couvre-lit. Puis il pleura, comme presque tous les soirs, parfois serré contre sa femme, d'autres fois recroquevillé dans un coin. Pense-t-on autant à son enfant lorsqu'il est toujours là? L'aime-t-on autant que dans l'absence? Gabriel ne savait pas. Sa vie d'avant n'existait déjà plus. C'est l'avenir ne serait que calvaire. Quelle que soit l'issue de leurs recherches, leur vie serait à jamais transformée, broyée, asséchée par trop de larmes versées. Ses yeux se fermèrent sur la tristesse des jours passés. Il les rouvrit quand un bruit sourd le réveilla. Quelque chose avait buté contre la vitre. Gabriel se leva en titubant, la tête lui tournait. Il se traîna jusqu'à une porte vitrée entrebâillée. Que lui arrivait-il? Il la franchit sans comprendre. En toute logique, au deuxième étage, il n'aurait pas dû y avoir de porte donnant sur l'extérieur et se retrouva sur l'asphalte, au niveau du parking, derrière l'hôtel. Soudain, une douleur lui vrilla l'épaule gauche. L'oiseau qui l'avait percuté s'écrasa à ses pieds, son bec jaune entrouvert. Gabriel ne s'expliquait pas ce qu'il voyait. Un autre volatile gisait plus loin, misérable sac de plumes. Des impacts violents firent tout à coup chanter la tôle des voitures, les tuiles de la toiture. Les gens emmitouflés dans des peignoirs jaillissaient de leurs chambres, leurs visages ensommeillés levés vers le ciel. Des fusées noires et compactes surgissaient des ténèbres, par dizaines, pour s'écraser avec un bruit de chair broyée. Gabriel recula à l'abri de sa chambre, abasourdi, alors que son voisin en pyjama lui aboyait aux oreilles des « Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? C'est l'apocalypse ?» Oui, Gabriel avait vu. Bien sûr qu'il avait vu. Il pleuvait des oiseaux morts.